Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc. Luc, chapitre 16, les 13 premiers versets. Est-ce que je peux demander à un volontaire de lire ce passage? Luc 16, versets 1 à 13. Bon, ok, la sœur s'était proposée, je lui laisse. Amen. Merci. Ce passage est un passage intéressant où Jésus nous parle de la gestion des choses ou de l'administration. Et donc, dans ma Bible ici, c'est marqué parabole de l'économe infidèle. J'aimerais attirer votre attention sur trois choses dans ce passage par rapport à la gestion des choses. On voit ici, Jésus parle de quelqu'un qui était gestionnaire des biens, de quelqu'un d'autre, d'un homme riche. Et on peut dire que tout ce que nous avons, eh bien, ne nous appartient pas vraiment. Cela appartient à Dieu. Et nous sommes ici comme ce gestionnaire. Il était juste un intendant des biens de quelqu'un d'autre. Et donc Jésus veut nous dire par ce passage, nous devons faire attention comment nous gérons tout ce que Dieu nous a donné. Et nous devons savoir que tout ce que nous avons, eh bien, nous l'avons reçu. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens. Oh homme, pourquoi est-ce que tu te vantes? Ne sais-tu pas que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et donc, ce que nous avons reçu, nous devons bien le gérer. Et dans ce passage, il y a trois points. Tout d'abord, il faut gérer avec soin ce que nous avons reçu de Dieu. Et par rapport à cela, on peut dire que ce gestionnaire ici, ou cet économe, il a été défaillant en ce qui concerne le premier point. C'est pourquoi nous lisons au verset 2, il dit, il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Tu as été défaillant par rapport à la gestion de mes biens. Par conséquent, eh bien, tu seras démis de tes fonctions. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous ne savons pas vraiment. Mais, en tout cas, il a été défaillant dans sa gestion des choses. Et, donc, l'homme riche lui dit, rends compte de ta gestion, tu seras démis. Cependant, cette éjection n'est pas immédiate. Ce licenciement n'est pas immédiat. Il y a un temps, comment est-ce qu'on appelle ça, ce temps-là? Le laps de temps entre le fait donc qu'il gère et qu'il sera. En tout cas, il y a un préavis. Ouais. Donc, il a reçu un préavis et qu'il sera licencié, mais pour le moment, il a encore un petit court temps devant lui, eh bien, pour terminer ce qu'il a à faire. Oui, un temps. Oui. Une demi-grâce, parce qu'il sera licencié de toute façon. Et c'est là que nous sommes choqués par ce que Jésus va nous dire plus tard. Alors, verset 3, l'économe dit à lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte, je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Et c'est là qu'on est choqué. Jésus dit, « Le maître loua. » L'économe infidèle. Il fait l'éloge de cet économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Et Jésus de continuer, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. On pourrait remplacer par plus prudent, par plus intelligent. Le maître fit l'éloge de cet économe infidèle. Alors, pourquoi est-ce que Jésus dit cela? On dirait comme une provocation, on dirait comme un choc. Jésus dit, le maître loua l'économe infidèle. On peut dire que l'homme riche, il avait ses espions, il sait très tout ce qui se passe. Mais malgré ce qu'il a appris de ce qu'a fait son économe, il a fait son éloge. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait son éloge? Est-ce que c'est pour sa malhonnêteté? Sûrement pas. Est-ce que c'est pour dire, comme quelqu'un, certain Julien, l'apostat qui avait fait ce commentaire disant que la fin justifie les moyens? Non, certainement pas. Le maître fait l'éloge de cet économe infidèle. Parce qu'il a fait preuve d'intelligence. Il a fait preuve d'ingéniosité. Il a fait preuve de prudence. Il s'est dit, eh bien, c'est fini pour moi, mais j'ai encore un laps de temps qui me reste et je vais profiter de ce laps de temps, eh bien, pour arranger mon avenir. Et connaissant les hommes, il s'est dit, ok, donc, il a appeler chacun des débiteurs de son maître pour faire un arrangement avec eux pour alléger leurs dettes. Et on pense que ces débiteurs en question, c'était des locataires. Et alors, ces locataires seront pour toujours reconnaissants envers cet économe qui l'inviteront chez eux. Et comme ça, cet économe pourra bien finir sa vie. Jésus dit, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Bien souvent, on pense que être chrétien, c'est être idiot. Ou ne pas savoir utiliser son intelligence. D'où on a inventé le mot, vous le connaissez, crétin. Hein, ça vient de chrétien, on crétin. Donc, alors on dit que le chrétien n'est pas, ce qui est tout à fait faux. L'intelligence, la prudence, n'est pas incompatible avec la simplicité. Vous savez que de nos jours, on fait passer les chrétiens pour des gens qui ne savent pas grand-chose. Or, si on étudie bien l'histoire, on verra que beaucoup de grands inventeurs sont des chrétiens. Et beaucoup de grands penseurs, beaucoup de grands inventeurs sont des chrétiens. D'ailleurs, il y a un médecin chrétien, qui a même été inspiré par la Bible en ce qui concerne son travail. En lisant la Genèse, il a eu ça fait tilt chez lui. Il a vu comment Dieu a fait pour créer Ève. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu, pour créer Ève? Il a plongé Adam dans un profond sommeil. Et ce médecin s'est dit, ah, voici la première opération chirurgicale. Dieu a endormi Adam pour faire l'opération. Et ce médecin-là a inventé l'anesthésie. Nous avons les ordinateurs aujourd'hui, les calculatrices et autres. On doit beaucoup de cela à Pascal, Blaise Pascal. Avant les ordinateurs, il y avait les machines à écrire. Bon, peut-être que les jeunes aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est que machine à écrire. Il y avait les machines à écrire. Mais vous savez comment ont été inventées les machines à écrire? Eh bien, c'était un prédicateur. Ses paroissiens voulaient avoir par écrit cette prédication. Et ils pensaient comment faire pour conserver ses prédications. Il a inventé donc la machine à écrire. Et on pourrait continuer. Donc, quand on parle, par exemple, d'électricité, on parle de voltage, hein, donc, c'est volt. Donc, l'histoire est remplie d'inventeurs chrétiens. Donc, Jésus dit, nous montre ici que, eh bien, l'intelligence ne doit pas être incompatible avec la foi ou même avec la simplicité. D'ailleurs, toujours dans Luc, chapitre 14, verset 28. Jésus dit, en parlant de ceux qui l'appelaient à le suivre, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. et que tous ceux qui le verront ne se mettent à leur avis. Jésus dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi tenir. Le calcul, la réflexion ne sont pas incompatibles avec la foi. Et donc Jésus dit, si quelqu'un veut venir à lui, eh bien qu'il calcule le prix. Qu'il calcule le prix. Et n'est-ce pas Dieu lui-même qui nous a donné l'intelligence? Maintenant, ce qui est bien de savoir, c'est pourquoi j'aime beaucoup le passage que notre sœur a lu dans Proverbe, c'est de ne pas mettre notre intelligence au-dessus de Dieu. C'est lorsqu'on croit qu'on sait mieux que Dieu. C'est lorsqu'on croit qu'on est plus intelligent que Dieu. Mais on doit soumettre notre intelligence à Dieu. Et de savoir que Dieu, c'est lui qui sait tout. Nous ne connaissons qu'en partie. Lui, il sait tout. Donc, nous devons utiliser notre intelligence, mais en soumission au Seigneur. Et donc, Jésus dit, eh bien, soyons intelligents. Soyons prudents. Et dans un autre passage, Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. En d'autres termes, l'intelligence n'est pas l'apanage des gens du monde. Soyez prudents comme les serpents. C'est étrange, on dit comme les serpents. Pourquoi est-ce que là encore Jésus utilise le serpent? Hein? Mais il dit soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc la prudence et la simplicité ne sont pas incompatibles. Et donc ici, Jésus dit cet homme, eh bien, il a été prudent. Il a été clairvoyant, il a été prévoyant, et donc il fait l'éloge de cet homme. Donc, dans mon pays, en Haïti, il y a un proverbe qui dit « on peut haïr les chiens, mais il faut reconnaître qu'ils ont les dents blanches hein? ». Donc, ça veut dire que même si quelqu'un est ton ennemi ou je ne sais pas, mais tu ne peux pas lui attribuer tous les défauts. La personne a quand même quelques qualités. Et ici, même si l'économe fidèle n'est pas un modèle à suivre à 100%, mais on doit lui reconnaître cette qualité qu'il est clairvoyant, qu'il est prudent. Et donc, c'est pour ça que Jésus pouvait dire, soyez prudents comme des serpents. Il ne dit pas, soyez comme des serpents. Hein? Il dit, soyez prudents comme des serpents. Et simples comme des colombes. Donc, dans la gestion des choses de Dieu, nous devons, premièrement, être soigneux. De savoir que, eh bien, tout ce que nous avons, eh bien, ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Et deuxièmement, eh bien, nous devons utiliser tout ce que Dieu nous donne avec intelligence. Dans une autre parabole, Jésus reproche à celui qui n'avait reçu qu'un talent d'être allé et de cacher cela. Ça, c'est faire preuve de non-intelligence. De dire, oh, je risque de perdre ou de détériorer ce que j'ai reçu, donc je veux le cacher. Et là, Jésus n'était pas content. Il a dit, en fait, par la bouche du maître, il dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas mis cet argent à la banque? Cela aurait rapporté quelque chose. Là encore, quand cet homme, cet être-là, avait fait preuve de paresse. Dieu ne veut pas de la paresse. Dieu ne veut pas de la négligence. La première faute de cet économe ici, au départ, c'était la négligence. Mais heureusement, il s'est rattrapé. Là, il n'a pas fait preuve de paresse. Il a fait preuve de clairvoyance, de prudence. Mais il a un point sur deux. Le troisième point, Jésus parle de fidélité. Verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et je crois ici, c'est pour ça que cet intendant a été démis de ses fonctions. Il a montré qu'il n'était pas fiable, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, et alors le maître dit, « Tu seras démis de tes fonctions. » Et s'il s'était montré fidèle, eh bien, je suis sûr qu'il aurait gardé son poste. Jésus dit, verset 11, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Je me rappelle de cette histoire dans un des livres de ICI. C'est quelqu'un qui voulait bâtir une maison. Et alors, il a fait appel à un architecte. Il dit, construis-moi une maison. Construis-moi la maison telle que tu penses. Et alors, cet architecte, donc il lui a donné une certaine somme, dit, bon, voilà, voici l'argent, construis-moi une maison. Et l'architecte a pris l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Eh bien, il a utilisé les matériaux les moins chers possibles. Et il a construit une maison quelconque. Et à la fin, quand la maison a été bâtie, donc l'architecte a rendu la clé au propriétaire, dit voilà, la maison est construite. Et vous savez ce qu'a fait le propriétaire? Il dit cette maison, eh bien c'est à toi. Quelle déception! Hein? Si seulement cet homme savait que c'était sa maison qu'il construisait, eh bien il aurait mis beaucoup de soin, beaucoup d'amour pour construire cette maison. Mais malheureusement, c'était trop tard. Il construisait sa maison, mais il ne savait pas. Et combien de fois aussi, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous devons savoir que, eh bien, à la fin, il y a une récompense. À la fin, il y a une récompense. Donc, nous devons faire les œuvres de Dieu avec soin, avec intelligence et aussi avec fidélité. Et parce que cet homme n'était pas fidèle, le risque dit, eh bien, je t'enlève la gestion. Je t'enlève la gestion. Et ce qui est important, Jésus dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, eh bien, tout ce que nous avons là, eh bien, c'est de la gestion pour autrui. Mais cette gestion pour autrui, eh bien, déterminera ce que nous allons recevoir. Amen. Eh bien, si nous sommes fidèles, eh bien, dans les moindres petites choses aussi, c'est ce que Jésus dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, verset 10, l'est aussi dans les grandes. Et donc, nous sommes comme mis à l'épreuve aujourd'hui. Comment vas-tu gérer cette petite chose qui t'est donnée? Si tu es infidèle, eh bien, on ne peut pas te faire confiance pour les bonnes choses non plus. La Fontaine disait, qui vole un œuf volera un bœuf. Et voilà. Donc, c'est le même principe ici. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il ne faut rien négliger. Les petites choses que le Seigneur nous donne, nous devons les faire avec tout notre cœur. Comme je vous l'ai déjà dit dans un autre message, notre Dieu, c'est un Dieu des détails. Nous pouvons dire, ah oui, c'est un petit détail, ce n'est rien. Mais c'est au travers de ces détails-là qu'on voit notre fidélité, qu'on voit notre amour. Et cet économe n'avait pas d'amour parce qu'il faisait ça avec négligence. Et le maître a dit, ok, c'en est assez. Par contre, il avait quand même l'intelligence de prévoir la suite. Alors, mes bien-aimés, donc, à travers cette parabole, Jésus nous dit, faites avec soin tout ce que le Seigneur vous confie. Et faites avec soin les moindres petites choses. C'est pas seulement, j'attends de faire les grandes choses, mais j'attends les grandes choses. Ah oui, quand j'aurai cette possibilité-là, je ferai ci, je ferai ça. Beaucoup de gens disent cela. Ah, si j'étais riche, je ferais ceci, je ferais cela. Si j'étais riche, je donnerais autant à la mission. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnes à la mission? Si j'étais riche, je ferais ceci, je ferais cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et donc, ce que tu fais dans les petites choses détermine, en fait, montre ce que tu feras aussi avec les grandes choses. J'ai lu un article il n'y a pas tellement longtemps de cela. Toute une série de gens qui avaient gagné au loto ou à la loterie. Eh bien, des gens, il y avait en particulier un couple de jeunes qui avaient gagné je ne sais plus combien de millions en Angleterre. En quelques semaines, ils ont tout dépensé. Imaginez ces gens-là qui étaient au chômage, enfin à l'équivalent de ce qu'on appelle le CPS. Après quelques temps, ils sont retournés au CPS. Incroyable. Pourtant, ils avaient gagné le gros lot. En quelques semaines, ils ont tout dépensé, c'est parti en fumée. Et d'autres encore qui se sont suicidés ou autre chose. Donc, cela montre que ces gens-là, ils ne savaient pas gérer au départ. Et quand ils ont eu la grosse somme, eh bien, ce n'était pas à leur bonheur. C'était plutôt à leur malheur. Et c'est comme une fois, j'étais à Bruxelles, je venais d'acheter un pain tout frais. Et je rencontre un bonhomme dans la rue qui me dit, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour m'acheter à manger? Je lui ai dit, écoutez, voilà, je viens d'acheter ce pain-là. J'ai dit au bonhomme, je te donne ce pain. Il m'a insulté. Donc, il est clair que l'argent qu'il voulait, c'était pour s'acheter de la cigarette ou de l'alcool. Mais il disait qu'il avait faim, je lui ai donné un pain tout frais que je venais d'acheter. Donc, il m'a insulté. Donc, c'est des gens qui sont incapables de gérer. Et dans de telles conditions, c'est difficile que ces personnes-là, eh bien, sortent de leur situation. Donc voilà, Jésus dit, eh bien, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alors, mes bien-aimés, faisons avec soin, avec intelligence, avec fidélité, tout ce que le Seigneur nous demande. Tout ce que le Seigneur... Il n'y a pas de petites choses avec le Seigneur. Hein? Les catholiques ont inventé péchés capitaux et péchés véniels. Avec le Seigneur, il n'y a pas de péchés capitaux, péchés véniels. Péché, c'est péché. Donc, la même chose, le bien que tu fais, c'est un bien. Il n'y a pas de petit bien et de grand bien. ou même de grands cadeaux ou de petits cadeaux. Par exemple, ce verre d'eau. Si je suis dans le désert, ça a beaucoup de valeur. Donc, je ne veux pas dire que c'est un petit cadeau, c'est rien du tout. Non. Chaque chose a son importance. Et ne négligeons rien. Le Seigneur sait pour quelle raison il nous a confié ce qu'il nous a confié. Remarquons ici que le problème avec l'économe, ce n'est pas une question d'incompétence. Bien souvent, les gens disent, ah, quand le Seigneur appelle, on dit, je ne peux pas. Ce n'est pas une question d'incompétence, mais c'est une question d'avoir les choses à cœur. C'est une question de fidélité. C'est une question vraiment de faire avec tout son cœur ce que le Seigneur nous demande de faire. Jamais il est question de compétence. Parce que qui est-ce qui nous qualifie? C'est le Seigneur lui-même. Et s'il nous donne quelque chose, c'est que lui, il le sait. Donc, c'est une insulte au Seigneur lorsqu'il nous dit, fais ceci, il dit, ah non, je ne peux pas. Donc, si nous sommes de bonne volonté, eh bien, c'est possible. Parce que le Seigneur, il est là avec nous. Alors donc, je nous invite à réfléchir, est-ce que ce que le Seigneur nous confie, est-ce que nous le faisons avec soin? Est-ce que nous le faisons aussi avec intelligence? Ou bien nous laissons les choses aller comme ça? Nous nous laissons aller à la paresse. Mais nous devons utiliser notre intelligence, notre ingéniosité. Et l'intelligence, c'est pas l'apanage des gens du monde. Mais l'intelligence, Dieu a donné à chacun de nous une portion d'intelligence. Et pour que nous puissions l'utiliser. Mais que jamais nous puissions mettre notre intelligence au-dessus de Dieu. Notre intelligence doit être soumise à Dieu. Nous ne devons jamais croire que nous sommes plus sages que Dieu. Dieu, il est celui qui sait tout, qui est le Dieu de toute sagesse, de toute intelligence. Et c'est pour cela que nous nous soumettons à lui. Et nous cherchons sa face pour qu'il nous guide, pour qu'il nous dirige. Et il passe par notre intelligence. Des fois, nous demandons au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il ne veut pas toujours nécessairement nous donner un rêve ou nous donner une vision. Ben, il peut nous donner aussi des idées. Amen. Il peut nous donner des idées. Le Seigneur nous donne des idées. Et je vous ai parlé de tous ces inventeurs chrétiens. Eh bien, qui est-ce qui leur a donné ces idées? C'est le Seigneur. Le Seigneur leur a donné ces idées-là et ils ont loué le Seigneur qui leur avait donné ces idées. Et ces idées-là ont révolutionné le monde. Mais maintenant, le monde se croit plus intelligent que Dieu, disant que, ah oui, bon, les chrétiens sont des idiots, des chrétiens, mais nous ne le sommes pas. Amen. Le Dieu d'intelligence, comment pouvait-il créer des chrétiens? Donc, remercions le Seigneur pour tous ses dons envers nous. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu nous as donné à chacun de l'intelligence pour comprendre. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être paresseux, à ne pas être négligent, Seigneur Dieu, mais à être fidèle dans ce que tu nous confies, à faire avec soin. Tu ne veux pas que nous fassions ton œuvre avec négligence, tu ne veux pas que nous fassions ton œuvre de manière à la légère, Seigneur Dieu, mais que tu veux que nous soyons fidèles et soigneux dans tout ce que nous faisons. Tu veux que nous soyons inventifs, ingénieux dans tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu de l'intelligence. C'est toi qui nous as donné l'intelligence, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur, utiliser notre intelligence en soumission à ta parole, Seigneur Dieu. Merci. Continue de nous guider. Continue, oui, Seigneur Dieu, de nous éclairer, Seigneur Dieu. Par ta lumière, nous voyons la lumière, comme dit ta parole. Oh Jésus, nous, oui Seigneur Dieu, nous voulons te donner gloire Seigneur dans tout ce que nous faisons. Nous voulons te donner gloire Seigneur en agissant avec intelligence, en agissant avec prudence Seigneur Dieu. Nous voulons te donner gloire dans les moindres choses Seigneur Dieu. Non seulement dans les grandes choses mais dans les moindres choses qu'on voit Seigneur Dieu que nous sommes réellement tes enfants. Parce que dans tout ce que nous le faisons avec soin, nous le faisons avec intelligence, nous le faisons avec fidélité. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Amen.